c'est notre panthère à nous sur ses deux ailes. Bonjour Dominique.
Bonjour les amis, amis du bout des ondes, bonjour. Et bien cette semaine, les cramés de la bobine mettent à l'affiche de l'Alticiné de Montargis un film germano-norvégien d'une vie à l'autre du metteur en scène allemand Georges Mass. C'est un film qui est sorti récemment sur les écrans français puisque c'était le 7 mai 2014. Je voudrais dire que ce film trace une partie de l'histoire pendant la dernière guerre, c'est pas probablement, c'est sûr, la dernière guerre, jusque dans les années 90. Et on prend le film, notamment, dans les années 1990, le mur de Berlin est tombé récemment, et l'action va se dérouler entre un peu l'Allemagne de l'Est, et puis la Norvège. Les premières séquences, d'une vie à l'autre, nous transportent vers une autre époque, un autre cinéma. Une femme change de perruque, de vêtements, détruit des papiers, et veille à ce que d'éventuels témoins soient éliminés. Il est question de la Seconde Guerre mondiale. Il est bientôt cristallin que l'on est dans un film d'espionnage, un thriller. Sauf que l'enquête est interne. Catherine est une femme qui cache un secret en train de remonter à la surface. On s'en fout de cacher ce secret, il ne faut pas qu'il vienne. Et Catherine est une Allemande de l'Est qui vit en Norvège depuis 20 ans, entre son mari, sa mère, sa fille et sa petite-fille. Son mystérieux passé va ressurgir lorsqu'un avocat lui demande de témoigner dans le cadre d'un procès intenté aux deux pays pour des faits de guerre. S'ensuit un des scénarios les plus surprenants de réalisme et un film essentiel pour comprendre les rouages d'une histoire qui n'en finit jamais. On va tout de suite se mettre dans l'ambiance en écoutant la bande-annonce.
Sven Sulbach, Ihr Kumpel von der Advokatfirma Höchstedekur.
Worum geht's denn?
Ich würde gerne mit Ihnen und Ihrer Mutter über die Wiedergutmachungslage der Lebensbaumkinder sprechen. Soweit ich weiß, gehören Sie zu den Kindern, die als Babys von den Nazis in ein Kinderheim nach Sachsen gebracht wurden.
Entschuldigung, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Das ist eine Zeit, an die wir nicht so gerne denken.
Der Katrin, die Giftrat und Komet, der Monument. Gut, vi skulle gifte oss med så.
Mamma, jeg skjønner ikke hvorfor du ikke vil være med på søksmålet.
Hier ist Vera. Ich bin in Gefahr.
Du wirst dieses Problem lösen alleine.
Ist es wirklich immer richtig, die Wahrheit zu sagen? Ist es nicht manchmal besser, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, als eine Katastrophe auszulösen?
Frau Mürder, was führt Sie nach Deutschland?
Bisher sind Sie der einzige Fall, wo Mutter und Tochter wieder zusammengefunden haben.
Jeg synes, at vi skal være med på høringen til Sulbach.
Ich will nicht zulassen, dass du mein Leben zerstörst.
Er kann ikke fortælle dig det.
Du wirst deinem Mann sagen, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst.
Und wenn ich es nicht mache?
Dominique, c'est étrange, hein, on entend et de l'allemand et du norvégien.
Voilà, c'est exactement ça. Et effectivement, puisqu'on va se situer sur ces deux pays, dans deux époques, et ce film, c'est bien sûr un film sur les enfants du Lebensborn.
C'est bien ce qui me semblait, hein, qu'il y avait cette histoire des enfants très particulière.
Ah ben, pour le moins, en fait, le Lebensborn était une association de l'Allemagne nationale socialiste, patronnée par l'État et gérée par les SS, dont le but était d'augmenter le taux de naissance d'enfants ariens en permettant à des filles mères possédant de bonnes qualités raciales, c'était comme ça, hein, d'accoucher anonymement et de remettre leur nouveau-né à la SS qui en assurera la charge puis l'adoption.
T'es mère porteuse, quoi.
C'est, ouais, c'était assez dramatique, épouvantable. Et c'est dans ce cadre de la politique d'eugénisme sous le nazisme et de promotion des naissances exacerbées par les Lebensborn virent le jour à l'initiative de Heinrich Himmler le 12 décembre 1935, cette politique étant le pendant des camps d'extermination. D'un côté,
On détruisait.
Ah bah complètement, on tuait les gens et de l'autre on créait une race. Il s'agissait à l'origine de foyers et de crèches, mais il semble sur la base de témoignages de voisinage que la SS transforma rapidement ces centres en lieux de rencontre où des femmes allemandes, ou autres nationalités d'ailleurs, considérées comme ariennes, pouvaient concevoir des enfants avec des SS. Le but de ces centres était la création et le développement d'une race arienne parfaitement pure et dominante. Les femmes accouchaient dans le plus grand secret, les enfants nés dans les Lebensborn étaient pris en charge par la SS en vue de constituer l'élite du futur empire de Milan. Et alors, l'objectif de ces Lebensborn était de permettre à des femmes mariées ou célibataires de race pure de donner naissance à des enfants dont les pères appartenaient à l'élite raciale, notamment des membres de la SS. Outre la reproduction de la race aryenne, le Lebensborn se chargeait aussi de la germanisation d'orphelins issus de couples mixtes, mais peut-être aussi d'enfants arrachés à leurs parents, en provenance de Pologne, Tchécoslovaquie et Norvège. Et c'est là qu'on rejoint complètement notre film. Ainsi, il est estimé que plus de 200 000 enfants furent emmenés en Allemagne et confiés à des familles allemandes sélectionnées. Et la Norvège était notamment dans la cible des SS pour les Lebensborn, parce qu'elle avait l'avantage pour les Allemands de représenter la race germanique nordique. Voilà. Alors, on explique un peu ce que sont ces centres pour enfants, et d'un seul coup, le film prend une autre dimension complètement différente. Alors tout à l'heure, je vous disais que Heinrich Himmler était l'un des piliers du Troisième Reich et mena son programme d'eugénisme. Le régime nazi pensait porter la race aryenne à son avènement via des centres où des femmes disposant de critères de pureté pouvaient avoir des enfants avec des SS. Leur enfant était ensuite élevé dans la doctrine afin de devenir la classe dominante. Bon, alors je vais pas trop développer encore ceci, mais je veux dire que le metteur en scène de ce film, qui est Georges Maas, s'est fortement imprégné des Lebensborn. On a fait beaucoup d'enquêtes pour trouver des enfants, qui étaient bien sûr de grands adultes à l'époque, mais les parents au moins, et il s'est rendu compte qu'il y avait très peu qui avaient retrouvé les parents, très peu. Et donc, dans le film, on va, dans ce film d'une vie à l'autre, on va avoir le parcours de deux générations de femmes marquées par l'histoire du XXe siècle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout se fissure lorsqu'elles deviennent, malgré elles, donc notre actrice Catherine, le témoin clé d'un procès intenté en réparation des atrocités commises. Catherine sait que sa participation fera éclater la vérité, mais aussi le mensonge sur lequel elle a bâti sa reconstruction, sa nouvelle vie.
C'est un vrai, hyper profond. Hein.
Oui, c'est très dur. Et puis, ces deux femmes, donc la maman qui est jouée par Liv Ullmann, on en reparlera un petit peu après, et Catherine deviennent le symbole d'une partie de l'Europe meurtrie à jamais par la folie de la guerre, qui tente de réintégrer une vie quotidienne, normale malgré ce poids, malgré la honte. Malgré la honte, puisque on sait très bien que les femmes qui ont des relations avec les nazis, les Allemands, après la guerre, ont eu des conséquences graves. Pour elles, oui, ça a été...
L'épuration.
Oui, quand on parle de malgré tondus, la honte, par exemple, c'est ça, c'est l'étendu. Et d'une vie à l'autre, ne se lance jamais dans le principe du devoir de mémoire, mais à l'inverse, accompagne ses personnages dans un processus de deuil du passé, quitte à explorer une autre guerre, celle que des femmes ont dû mener avec elles-mêmes. Effectivement, vivre et revivre, et c'est un peu le titre de notre film, c'est d'une vie à l'autre. Et je veux dire que Liv Ullmann, qui est une grande actrice norvégienne,
connue,
qui est née au Japon d'ailleurs, une particularité, eh bien, elle expliquait que dans ce film, bon, ça a aussi un rapport avec sa vie. Elle a vu dans sa famille deux hommes proches de sa famille disparaître, son père tué au combat, et son oncle, qui était médecin et qui a été aussi tué, et un autre cousin qui a été déporté à Dachau, mort en captivité. Et elle disait que lorsque sa tante est revenue, qui était veuve d'un Allemand qui est revenu en Norvège, sa mère ne voulait pas que les enfants, les cousins entre eux, parlent allemand. Il y avait une haine des Allemands parce qu'ils avaient fait trop souffrir les Norvégiens. Donc c'est ce film, d'une vie à l'autre, se situe 1990, donc peu de temps après la chute du mur de Berlin, mais va aussi remonter un peu dans le temps. On va se retrouver...
Oui, comment toutes les époques s'entremêlent, en fait. Hein.
Oui, alors c'est assez facile à suivre, hein, parce que les flashbacks sont très très bien faits, on n'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre le cheminement de cette femme, de Catherine, comment elle est arrivée dans sa famille norvégienne, retrouver sa mère, et comment elle a fait pour la retrouver. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et tout ce qui est autour, le mystère, c'est un vrai, vrai thriller, fort thriller. Donc je rappelle, hein, c'est Une vie à l'autre de Georges Maas. Et puis... on pourrait parler, bien sûr, un peu du casting, des gens qui sont autour de ce film. Non, le réalisateur, c'est un réalisateur allemand, Georges Maas, qui est né en 1960, donc largement après ce conflit, bien sûr. Il a réalisé beaucoup, beaucoup de documentaires, c'est un grand spécialiste documentaire. Il a fait un premier long-métrage, donc nous, les Français, on a jamais eu connaissance, et son deuxième film, donc c'est effectivement D'une vie à l'autre. Celui-là a déjà eu des prix reconnus dans les festivals, il a été présenté... comme aux Oscars pour le meilleur film étranger.
D'accord, donc quelqu'un de très prometteur.
Oui, c'est un bon film. Les acteurs, j'en ai retenu deux, parce que les autres sont des perceptions moins pour nous les Français. Il y a Liv Ullmann. Liv Ullmann, elle ne vit plus dans le cinéma depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Elle est gérie de Ingmar Bergman, puisqu'elle a fait plus de 10 films avec lui. Notamment, on avait... Cri et chuchotement en 72, Scène de la vie conjugale en 73, elle a tourné 53 films, c'est une énorme actrice qui est née en 39 et qui est née au Japon, particularité. Alors, elle a eu une petite enfance où elle s'est promenée autour du globe, elle a été au Japon, bien sûr, elle est venue un petit peu en Norvège, elle a été aux États-Unis, au Canada, elle a fait du théâtre, beaucoup dans tous ces pays du monde. C'est une actrice du monde, en fait, elle n'est pas forcément que de la Norvège. Et puis, elle a tourné, bien sûr, parce qu'elle avait cette particularité d'être impliquée un peu sur tous les continents. Elle a tourné avec Terence Young, de la part des copains en 70, et puis avec Louise Brunel, Léonore, en 1975. Donc, et puis beaucoup d'autres, bien sûr, que j'ai pas tenu. Et elle a aussi réalisé des films, des longs-métrages, et le prochain film de Liv Ullmann sortira prochainement, là, dans le courant de cette année. Ça s'appelle Mademoiselle Julie, il y aura au générique Jessica Chastain et Colin Farrell. C'est bien, hein, c'est bien. Et puis, on a l'actrice qui joue le rôle de la fille, qui joue le rôle de Catherine. Et donc, si vous voulez, l'énigme tourne autour de Catherine. Catherine, c'est la pièce centrale de ce film. Et on voit les différentes composantes, le mari, la petite fille, la grand-mère, tout ça. Et elle, Catherine, c'est Julianne Köhler. Elle est allemande. Elle est née en 1965 à Göttingen. Vous voyez et elle a une quinzaine de films, dont en 2004, elle a joué dans un film qui avait marqué l'époque, parce que vraiment beaucoup marqué. C'est La Chute. Ce film qui s'appelle d'Olivier Hirsch-Biegler. C'est ce qui marque la fin d'Hitler à
oui, un film
bunker.
Controversé,
ouais,
si je me souviens bien.
Controversé. On trouvait qu'il avait un côté trop sympathique, Hitler,
oui,
dans ce film.
Il le rendait trop humain.
Trop humain, et c'était Bruno Ganz qui jouait le rôle, et elle était simplement, elle avait le rôle de Eva Braun.
Simplement.
Ouais, simplement, elle était cette actrice, jouait ce rôle-là. Voilà, donc ça, c'est les acteurs de notre film D'une vie à l'autre, de Georges Maas, et puis, comme d'habitude, toutes nos séances, on va les redonner. Ça commence donc le jeudi, le dimanche, on les a en fin d'après-midi. Le lundi, début d'après-midi, autour de 14h. Et puis le mardi, 20h30, on a une soirée débat. Et cette fois-ci, c'est notre ami Klaus Schlupmann qui viendra présenter et animer ce film D'une vie à l'autre de Georges Maas. Alors, ma chère Guylaine, si vous êtes d'accord... On va reprendre notre respiration, on va faire un entracte musical. Et compte tenu que c'est une ambiance lourde et très difficile, ce film qui nous met en haleine et qui nous emmène dans tous les méandres de l'histoire, on va écouter quelque chose qui est merveilleux, un monde merveilleux. Quel ce monde est merveilleux, comme le chante Louis Armstrong.
Apaisons-nous.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Merci Dominique, ça nous a fait du bien.
Oh bah sûrement. Donc, la vie continue. Hein. Il y a une vie d'une vie à l'autre. C'est le film de germano-norvégien de Georges Mas cette semaine, à l'affiche des Cramés de la Bobine. Tous nos films sont bien sûr diffusés à l'Altice Ciné de Montargis. Et puis on continue, puisque dimanche soir, on a un film du patrimoine. C'est Phantom of the Paradise, un film américain de Brian De Palma. Qui est sorti en 75. Alors, ce sont des films qui ont été remasterisés, retravaillés. Le film aura lieu, présenté dimanche à 20h30 et sera notamment animé par Delphine Kunkler. Ce film, donc, c'est Phantom of the Paradise. Et puis, la semaine prochaine, dès jeudi, on aura un film mexicain. C'est pas
ça nous change.
Oui, mexicain. On va pas tout de suite au Brésil, on va au Mexique. Hein. Ça s'appelle Les Drôles de Poisson-Chat, un film de Claudia Saint-Luce. Un film sympa, qu'on aura l'occasion de reparler. On va finir la saison à partir du 26 juin au 1er juillet. On aura le film de Mathieu Amalric, La Chambre Bleue. Ce film, il y aura des invités, on ne les connaît pas encore tous, il y aura peut-être même de belles surprises, enfin on en reparlera.
Oh, oui.
On en reparlera. Et puis on n'oublie pas que notre documentaire du mois, La Cour de Babel, c'est le lundi 23 juin, dans quelques jours quand même, à 20h30, le documentaire français de Julie Bertuccelli, La Cour de Babel. J'en reparlerai la semaine prochaine, mais je vous garantis, gardez votre soirée du lundi 23 juin, La Cour de Babel. Ça vaut vraiment
le déplacement. On en parlera en direct de la fête de Chalette, Dominique,
voilà,
la semaine prochaine.
Exactement. Donc, eh bien, je vous souhaite à tous, amis auditeurs et mes amis autour de moi dans le studio, une belle journée, une belle semaine. On est toujours fidèles à C2L, la radio du soleil, des vacances, n'est-ce pas? Et puis, à bientôt. Vive le cinéma!